Voilà pour ce journal. Bonne soirée.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue chers auditeurs de VOA Afrique. Un grand plaisir de vous retrouver dans le dialogue des religions. Dans notre série d'émissions, nous avons appris ensemble les quatre types de personnalités, l'importance de connaître son tempérament et comment adapter ses comportements vis-à-vis de l'autre. La foi et la personnalité sont intimement liées. Plus votre personnalité est fortifiée, plus vous êtes capable d'exercer le pouvoir de la foi. Ce soir, nous abordons la combinaison des tempéraments. Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. Eric Manilakiza avec vous à la présentation. Nathalie Nyamoya et Olivier Akizimana sont avec nous depuis le Québec au Canada. Bonsoir les amis.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Eric.
N'est-ce pas que vous êtes devenus de vrais amis au-delà d'être en couple, j'ajoute aussi chrétien.
Absolument, nous sommes de très bons amis.
Je vous confirme.
Est-ce qu'il vous arrive de parler d'autre chose, disons aborder des conversations non lié nécessairement à la foi ou à la Bible? Ceci dit, ce n'est pas pour entrer dans votre vie privée.
Non, absolument. On est fait de chair et de sang, on a des enfants, on a des défis, on a des projets, donc on ne peut pas ne pas parler d'autre chose.
Je confirme également. Et nous sommes des partenaires de vie et tout ce qui touche à notre vie, que ce soit la vie privée, professionnelle, celle qui est liée à la foi, ce sont des sujets de discussion entre nous.
Le social aussi.
Ah, le social aussi. Ben voilà. Parce que je dirais le social aussi, surtout pour les sanguins que je suis. C'est la base de notre tempérament. On est dans le relationnel. Je dirais, Nathalie, comment elle a compris aussi, elle consacre plus de temps à son volet-là.
Quel type de jeu préférez-vous ensemble?
On n'est pas de très bons joueurs. Hein. On a essayé un jour dans le passé, mais c'est vrai que c'était avant qu'on découvre les tempéraments. On s'est très, très bien chicané. On n'a pas repris depuis.
Ah, on aime le football, mais malheureusement...
Regardez les matchs de foot.
Regardez les matchs de foot. Malheureusement, on ne soutient pas toujours les mêmes équipes. Alors, on peut sentir qu'il y a de la passion dans le salon quand on suit le match.
Et curieusement, je deviens plus sanguin quand il s'agit de football aussi.
Ah ouais. Wow.
Nathalie, comment Dieu utilise votre foi pour façonner votre personnalité?
Croire en Dieu signifie qu'il a créé chaque partie de mon être. Donc oui, faire confiance, c'est-à-dire avoir foi en lui, c'est de croire que même les parties les plus incomprises, que je ne comprends pas, ou bien les parties les plus faibles, il est capable de pouvoir les relever, de m'aider et de continuer à vivre non seulement en m'épanouissant, mais aussi en aidant les autres ou en aidant à s'épanouir toute autre personne, en particulier mes prochains.
Olivier, est-ce que votre personnalité en tant que couple humanise votre ménage? Est-elle finalement la manifestation de ce que vous êtes en train de devenir?
C'est-à-dire?
Si Dieu utilise votre foi pour façonner votre personnalité, est-ce que c'est vraiment ça la manifestation de ce que vous êtes en train de devenir?
Exactement, parce que si on regarde dans la Bible, la parole de Dieu donne une comparaison par rapport au potier et nous montre que Dieu est comme un potier. Alors quand je regarde comment on a commencé, notre foyer, et que j'arrive, je regarde, je compare à là où nous en sommes actuellement, je vois qu'il y a une nette différence.
Absolument.
Je vois que ce soit Nathalie, que ce soit moi, il y a eu un changement, et je dirais que le Seigneur a fait un travail énorme dans nos vies. Il a transformé Nathalie comme elle m'a transformé aussi. C'est pour cela que je confirme que le Seigneur a fait quelque chose, nous a transformé, nous a touché et nous a ouvert les yeux par rapport aussi à notre tempérament pour pouvoir nous accepter mutuellement.
Alors, une personnalité forte est aussi le résultat de bons choix constants. On aborde la question de combinaison. Est-ce que ce résultat dépend de la bonne combinaison, Nathalie?
Dans un couple ou dans une vie en général?
Les deux.
En général, c'est vrai que, comme on l'a analysé les autres fois, les autres sessions, nous avons vu plusieurs facettes des tempéraments et que peu importe le type de combinaison entre les tempéraments qui peut exister, que ce soit dans un couple, dans une famille ou au travail, parce qu'on a toujours des amis qui ont des tempéraments différents des nôtres, nous avons une responsabilité de faire des choix, de prendre des bonnes décisions afin que soit nos relations puissent évoluer de la bonne façon. Donc je me dis qu'il y a une part de responsabilité, un choix personnel, surtout quand il est éclairé et qu'on a compris que nos propres tempéraments ont des faiblesses et qu'il faut surtout travailler sur ces faiblesses.
Olivier, le fondement de la personnalité est l'intégrité, je crois que la Bible le dit aussi. Y a-t-il un tempérament quelconque qui détient le monopole de l'intégrité?
Je dirais peut-être le mélancolique, mais tu sais, quand on parle d'intégrité, tout dépend de la perception. Et comme on en avait parlé dans les précédentes sessions, on avait dit que les tempéraments sont comme, je pourrais les comparer aux lunettes qu'on porte. Alors, selon les lunettes que nous portons, nous voyons le monde différemment, et même les concepts. Alors, quand on parle de l'intégrité, pour quelqu'un de mélancolique, ça signifie souvent être fidèle. Mmh. Et par rapport donc au sanguin, ça signifie pouvoir produire du plaisir chez l'autre en permanence et réussir dans cette mission. Et par rapport donc, je dirais, au colérique, c'est par rapport au fait d'accomplir son objectif et d'être ferme et de rester dans ses résolutions. Et par rapport au phlegmatique, c'est le fait de garder cette relation de paix, de poursuivre la paix. Alors, c'est pour cela que je dis, tous les tempéraments, ils sont dans l'intégrité, mais ils sont perçus différemment.
Ils les expriment différemment.
Exact.
Ouais.
Nathalie, quelle est votre première combinaison?
Alors, la combinaison dont j'aimerais parler, c'est plutôt la combinaison des colériques et des phlegmatiques. C'est une combinaison assez courante. Ce sont vraiment, la plupart des fois, dans ce cas-là, je dis la femme et l'homme, a tendance à rechercher ce qu'il n'a pas, curieusement.
Le colérique est marqué par l'élément feu, qui est orienté à l'action, avec un tempérament dynamique, impulsif et plein d'énergie. Il peut devenir égocentrique, préoccupé uniquement par ce qui l'anime, sans considération pour les autres et les règles. Il va droit au but, n'aimant pas s'embarrasser de considérations secondaires. Les obstacles sur le chemin ne lui font pas peur. Il n'aime pas qu'on lui résiste. Il est souvent enclin à la colère. D'une volonté implacable, il peut manquer de maîtrise et se brûler lui-même. C'est l'homme des challenges et des projets, tandis que la personne phlegmatique est calme, fiable, réfléchie, leur personnalité réservée et timide. Elles sont souvent très cohérentes, détendues et observatrices. Vous pouvez être tout à fait nature avec une personne phlegmatique, il n'y a pas moyen de l'affecter. Nathalie, vous disiez tout à l'heure qu'un couple colérique et phlegmatique a des points positifs.
Oh, absolument. Ils ont des points positifs, même s'ils sont extrêmement différents. Parmi d'ailleurs les quatre types de tempéraments, souvent moi, les deux extrêmes des tempéraments sont vraiment le plus introverti et le plus extraverti. Mais ces deux-là, quand ils sont ensemble et quand tout est bien géré, bien sûr, les colériques vont aider les phlegmatiques à toujours sortir de leur zone de confort. Vice-versa, les phlegmatiques vont aider les colériques à être plus pacifistes, parce que comme tu viens de les définir, les colériques ne sont pas du genre à être extrêmement patients, à écouter les gens. Donc, le phlegmatique apprendra au colérique à être plus mesuré, plus doux, alors que le colérique apprendra à son tour au phlegmatique à ne pas fuir les situations de conflit. Je dirais aussi que le phlegmatique va créer une relation saine avec les amis de leur couple grâce à sa grande diplomatie. Le colérique, en retour, poussera toujours le phlegmatique à être plus ambitieux parce que nous savons que le phlegmatique a cette capacité à vouloir rester dans des statu quo. Et il va aussi l'influencer à être plus passionné. Alors qu'à l'opposé, le phlegmatique va aider le colérique à être moins passionné.
Il y a Zinedine Zidane, par exemple. On dit qu'il est phlegmatique, mais c'est quelqu'un qui a de l'ambition.
Mais être phlegmatique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ambitieux. Plutôt, savoir une ambition cachée. C'est une ambition qui est souvent posée, qui n'est pas révélée au grand public. Ce qui fait que lorsque tu es à côté d'un colérique, et surtout quand tu as été dirigé ou aidé ou élevé, ou si tu as épousé un colérique ou une colérique, c'est une personne qui va faire sortir ce trésor qui est en soi. Nous avons vu la fois passée par rapport au phlegmatique qu'Abraham était un phlegmatique. Mais selon la Bible, il est considéré comme le père de la foi. Donc on ne peut pas être initiateur, être un père, une image de quelque chose si on n'a pas une forte personnalité.
Olivier, quels sont les points négatifs à relever?
C'est l'agressivité du colérique qui va pousser peu à peu le phlegmatique à le fuir. Et c'est souvent ce qu'on voit, surtout dans les couples. Il y a des séparations, il y a des divorces à cause de ces deux tempéraments. Quand ils s'expriment dans leur négativité, ça devient un désastre. Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a l'indécision du phlegmatique qui irritera toujours le colérique. Parce que, comme on l'a vu, c'est quelqu'un qui est toujours, qui se sent bien dans sa zone de confort. Et souvent, prendre les décisions, il remet plus tard à demain. Et le colérique, ça l'irrite parce que lui, il faut que tout soit fait et immédiatement fait. Alors, l'autre point, c'est que le manque ou peu d'empathie de la part du colérique tendra à scandaliser le phlegmatique. Et comme on l'a vu, et comme vous l'avez aussi exprimé tantôt, le colérique, il est là dans sa tête, il veut atteindre son objectif, peu importe les obstacles qui sont devant lui. Alors, c'est pour cela que ça touche énormément au phlegmatique, qui veut toujours garder et avoir les bonnes relations avec les gens. C'est pour cela que, comme Nathalie venait de le mentionner, sa diplomatie va l'aider à s'aimer des relations, mais si le colérique ne comprend pas ou n'accepte pas donc l'apport du phlegmatique, ça va être un désastre. Alors, le dernier point, c'est que la soif de domination des colériques sera toujours incomprise par les phlegmatiques. Ça va tendre aussi à les pousser à s'enfermer de plus en plus dans le mythisme. C'est pour cela que les phlegmatiques qui sont avec les colériques tendent toujours à fuir et à ne même pas s'afficher avec les colériques.
Vous dites aussi que l'inflexibilité des colériques va pousser les phlegmatiques à ne plus prendre d'initiative. Selon vous aussi, trop d'assurance ou l'arrogance des colériques tendra à intimider les phlegmatiques et à stériliser toute initiative de leur part.
Exactement, parce que dans leur personnalité, je dirais leur zone de confort, c'est d'être invisible. Alors, quand on mentionne jamais leur nom, alors essayez de penser à un phlegmatique qui se marie avec un colérique ou une colérique qui tout le temps veut avoir les premières places. Alors lui, ça l'embarrasse tout le temps. Et il sent que, je dirais, le comportement de son mari ou de son épouse le pousse à sortir de sa zone de confort et ça le marque négativement. C'est pour cela qu'il veut fuir à tout prix.
Deuxième combinaison, c'est le sanguin avec le mélancolique, n'est-ce pas?
Absolument, oui.
L'individu marqué par le tempérament mélancolique aime construire et perfectionner sans cesse en se montrant patient, déterminé, endurant et discipliné. Il fait preuve de sens pratique et de réalisme, pouvant par contre se montrer obstiné et un peu possessif vis-à-vis de ses possessions. Et la personne sanguine est joyeuse, avide et optimiste. Elle peut être rêveuse au point de ne rien accomplir et être aussi impulsive, agissant de façon imprévisible. C'est une personnalité qui, comme le phlegmatique, a beaucoup d'amis. Olivier, quels sont les points positifs entre les deux quand ils se rencontrent?
C'est facile de les énumérer parce que je vis avec une mélancolique et moi je suis sanguin. Et je me rappelle quand on venait de se marier, même avant de se marier, j'étais toujours attiré par son calme, la façon dont elle était réservée. Il y a l'autre chose qui m'attirait de sa part, c'était sa facilité de dire non. Parce que pour moi, je disais facilement oui à tout le temps et oui à tout le monde. Alors, Aussi, il y a un autre point qui m'a impacté, qui m'a influencé de sa part, c'est qu'elle était moins susceptible. Parce que pour moi, comme un sanguin qui fonctionne, je dirais qu'il a comme mission de vouloir plaire à tout le monde, c'est toujours problématique. Et j'ai appris de sa part donc, d'être moins sensible, pas moins sensible, je dirais moins susceptible plutôt. Alors, le sanguin poussera la mélancolique, je pense que je l'ai fait, à sortir de sa zone de confort, parce que se plaire à rester dans sa zone de confort. C'est pour cela que même souvent les mélancoliques aiment procrastiner. Donc, elles remettent toujours à demain la chose qu'elles devaient faire maintenant. Alors aussi, j'ai vu que je la poussais à être plus souple et à prendre les choses au second degré. Parce qu'elle était tellement sérieuse que chaque parole que je lui adressais ou que les amis lui adressaient, elle prenait ça comme, je dirais...
premier degré.
Ah oui, comme parole d'évangile. Et c'est pour cela que ça l'irritait souvent. Elle était susceptible. Donc, Dieu m'a utilisé peut-être pour être moins susceptible. Et alors, aussi, le sanguin va pousser la mélancolique à être plus souple. Et la mélancolique va apprendre au sanguin à être plus ferme. C'est ce qu'elle m'a appris et je l'ai mentionné tantôt. Aussi, la mélancolique va apprendre au sanguin à être prudent, à ne pas dire tout le temps oui, à ne pas s'engager dans tous les projets qui lui sont proposés. Et ça, je l'ai appris de sa part. Elle m'a appris aussi à être rigoureux parce que je dirais, on a tendance à devenir facilement superficiel, mais elle m'a aidé à m'engager peu, mais à être profond dans mon engagement. J'en profite pour dire merci à Nathalie.
Youpi!
Nathalie,
oui.
Quelques conséquences, disons des points négatifs.
Ah oui, il y en a. Et même si on rit comme ça, il y en a eu quand même pas mal de bavures. Hein. La plupart des fois, l'impulsivité des sanguins tend à embarrasser les mélancoliques. Je me rappelle que souvent, je ne comprenais pas pourquoi il était très exubérant. Mais quand on n'a pas encore compris cela, ça a tendance à irriter ou à embarrasser les mélancoliques. Le fait aussi que les sanguins soient trop bruyants irrite les mélancoliques, et la distraction des sanguins laisse souvent les mélancoliques sans voix. Donc sincèrement, on se dit c'est pas possible, il peut pas oublier, il peut pas être autant superficiel, autant distrait, c'est extraordinaire. Mais en retour, et je sais que ça arrive un petit peu moins, je dois l'avouer maintenant, je me procrastine moins. Donc je sais que le fait de procrastiner, de remettre à demain les choses que je devais faire, avait une tendance à irriter Olivier. Donc ça a tendance à exagérer, à nuire à cette relation, parce que naturellement, les sanguins sont des gens aventureux. Donc, ils ne comprennent pas les gens qui sont des aventuriers. Et l'une des dernières choses que je pourrais dire, c'est que c'est très difficile de plaire aux mélancoliques. Et ça a tendance à faire fuir les sanguins.
Heureusement qu'il est resté.
Grâce à Dieu.
Ah oui, c'est là où on voit l'apport de la foi.
Exactement. Et
la parole de Dieu dit que quand on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Mm-hmm. Et en faisant confiance au Seigneur, le Seigneur l'a transformé. Mm-hmm. Mais j'ai vu sa transformation parce que Dieu m'avait transformé.
Voilà, sanguin avec mélancolique, colérique avec flegmatique, ce sont les deux combinaisons, disons, idéales. Mais qu'advient-il lorsque les deux tempéraments se rencontre dans une vie de couple, est-ce que ça tient? Professionnellement, peut-être ça peut tenir.
Personnellement, je pense qu'il n'y a pas réellement de combinaison idéale. Il n'y en a pas vraiment, parce que là, on a donné la plupart des deux combinaisons, ce sont les combinaisons qu'on a remarquées, nous, quand on est en train de discuter avec les gens, les plus fréquentes. Mais lorsqu'il arrive de se marier ou d'être en couple avec une personne de même tempérament, souvent, on tombe dans le piège en disant « si j'avais quelqu'un qui pense comme moi, ça pourrait mieux marcher », mais ça ne marche pas toujours. Pourquoi ? Parce que c'est souvent, on entre dans une illusion en pensant se comprendre au travers de l'autre, mais malheureusement, ça ne marche jamais. Par exemple, si je prends cas des colériques et des colériques, ils vont être extrêmement exubérants. Ce sont des gens qui vont vraiment travailler fort, qui vont arriver, qui vont agir, non pas travailler fort, mais plutôt être dans l'action. Mais quand ils ne sont pas d'accord, ce sont des gens qui vont vraiment se détruire. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise combinaison. Il faut juste que l'on soit conscient que lorsqu'on a le même tempérament avec son conjoint, on multiplie par deux les points forts ou on multiplie par deux les points faibles.
Olivier, un sanguin avec un sanguin, est-ce que tu penses que ça peut former un bon couple?
Je pense que ça va être explosif. Comme je l'ai appris à l'école, les opposés s'attirent. Alors, je me dis à ceux qui ne sont pas opposés, peut-être ils se repoussent d'une façon ou d'une autre. Alors, je dirais, si les sanguins se mettent ensemble, ils vont profiter du côté positif, les points positifs, comme le fait d'être amical, d'être dans le relationnel. Alors, ils vont baigner là comme des poissons dans l'eau. Ça va être facile de nouer de nouvelles relations, même le fait d'être superficiel, ça ne va pas déranger l'un ou l'autre. Mais le problème, c'est que de plus en plus, plus ils restent, plus ils passent du temps ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus de temps pour eux, parce que tout le monde est porté vers l'extérieur. Tout le monde est là pour plaire à l'autre. Alors souvent, on sait on croit à tort que la personne avec laquelle on vit dans la maison est déjà conquise. C'est pour cela qu'on se projette souvent vers les gens qui sont dehors, les gens qui ne font pas partie de notre famille. Et le sanguin qui n'a pas été visité par Dieu ou qui n'a pas reçu cette sagesse de Dieu et cette sensibilité de savoir que sa famille doit devenir prioritaire avant les gens de dehors, il souffre beaucoup. C'est pour cela que les deux sanguins qui se mettent ensemble, à moins que Dieu les visite et qu'ils comprennent le tempérament de l'autre et le besoin de l'autre, sinon ils vont souffrir.
Je me mets un petit peu à la place des enfants. Lorsqu'on a deux parents sanguins qui sont toujours dehors, c'est très difficile d'être équilibré émotionnellement. Surtout que si tous les deux aiment l'aventure, ils ne se resteront jamais à la maison.
Les phlegmatiques ensemble ?
Alors, pour les phlegmatiques, moi, je pense que c'est une combinaison la plus, entre guillemets, stable. S'il doit en considérer, si une personne devait se marier avec une personne de même tempérament, ce sont des gens stables, spectateurs, mais le problème, c'est qu'ils vont aussi avoir des défis. S'ils ont des trésors, parce qu'on a toujours des trésors, ils n'auront personne pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Donc, ils vont risquer de mourir avec leurs trésors, ne jamais avancer, rester dans des statu quo et ne pas faire bénéficier ce qu'ils ont en eux aux autres. Certes, ce sont des gens qui ne vont pas vraiment se battre entre eux. Ce sont des gens qui vont être dans le pacifisme. Donc, quand même, si on ne se bat pas dans un couple, ça a tendance à être plus facile. Mais il y a aussi à ce côté-là, et surtout pour les enfants, lorsqu'on est élevé par deux phlegmatiques, je me dis qu'il y a un souci, parce que ce sont des gens qui vont toujours laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, ne jamais être en conflit avec eux. Et alors là, c'est un peu plus compliqué.
Et en parlant des enfants, souvent les phlegmatiques, ils sont dominés par leurs enfants. C'est souvent les phlegmatiques qu'on trouve les enfants rois.
Les mélancoliques ensemble.
Oh, les mélancoliques ensemble.
Je m'imagine si Nathalie se marie à quelqu'un qui lui ressemble.
Ce serait pas beau, je ne pense pas.
Ouais, dans la Bible, il y a un livre qu'on intitule Les Lamentations de Jérémie.
Ouais.
Je pense que leur maison serait une maison de lamentation parce qu'ils broient du noir facilement.
C'est ça.
Et ils sont hyper susceptibles.
Exactement.
Ils sont dans la procrastination, ce qui fait qu'ils manquent à une personne qui va pousser l'autre à sortir de sa zone de confort. Ils vont se mettre ensemble, essayer de parler ensemble parce qu'ils sont dans l'intellect, ils sont dans la pensée, ils échangent des idées brillantes. Mais passer à l'action, ça va être très difficile.
Mais de l'extérieur, les gens verront ce couple comme des gens parfaits parce qu'ils aiment beaucoup la perfection. Donc, ce sera très difficile de leur trouver des problèmes ou des points faibles ou des défauts de l'extérieur. Ce sont aussi des gens qui vont nouer des amitiés profondes facilement. Donc, on va les aimer de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce serait très difficile pour eux d'être très équilibrés parce qu'ils vont se blesser au niveau des émotions. Parce que pour eux, ce qui est important, ce sont les pensées. Pour eux, ce qui dégage une émotion, c'est pratiquement une pensée, ce qui fait qu'ils vont rentrer. Lorsqu'ils sont sur la même longueur d'onde, ce sera super, extraordinaire. Mais ce n'est pas souvent que ça marche comme ça. Et quand il y a un petit peu de problème, c'est comme du levain qui fait lever toute la pâte.
Le psychologue Wundt suggère qu'une meilleure description de la personnalité pouvait être réalisée en utilisant deux axes majeurs, émotionnel, non émotionnel et changeant, immuable. Le premier axe sépare les émotions fortes, mélancoliques et colériques, des émotions faibles, phlegmatiques et sanguins. Le second axe, quant à lui, sépare les tempéraments changeants, donc colériques et sanguins, aux tempéraments immuables, mélancoliques et phlegmatiques. Nathalie, je vous donne un dernier mot. Je ne voudrais pas que vous partiez mélancolique.
Non, non, je vous rassure, j'ai été aidée par un sang et par le Saint-Esprit. Non, c'est juste que personne n'a... je voudrais juste rassurer à tous ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de mauvais tempérament. Il n'y a pas de très bon tempérament. Si on commence à les définir, on risque de mettre les colériques dans une case et d'élever les flegmatiques sur un piédestal. Mais chaque personne a un tempérament extraordinaire lorsqu'il sait canaliser ses erreurs.
Nous arrivons au terme de cette édition de Dialogue des religions. Lionel Runanilagahima a assuré la mise en onde. Nathalie Olivier, merci beaucoup pour vos contributions respectives dans cette émission.
Merci aussi.
Merci aussi de nous avoir invités. Merci pour l'opportunité de parler aux gens.
Eric Manilakis a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.